Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette table ronde Wonder Woman 2. Alors pourquoi 2 ? Parce qu'il y a déjà eu une table ronde avec donc beaucoup d'écrivaines donc de la science-fiction en 2012. Et Hugo Bellagamba donc a décidé de poursuivre la réflexion et nous allons voir évidemment comment. Avec vraiment une magnifique, je suis extrêmement fière et flattée de modérer justement cette table ronde parce qu'une table ronde 100% féminine avec vraiment de grandes figures de la science-fiction et ça me fait extrêmement plaisir. Alors comme nous sommes très nombreuses, nous allons, donc mes intervenantes vont se présenter elles-mêmes, donc rapidement, Jeanne. Bon alors Florence, donc Florence Porcel.
Oui, bonjour. Bonjour, alors j'ai un petit problème, je suis la seule non-auteure de science-fiction autour de cette table. Voilà comment me présenter. Sinon, je suis animatrice sur France Inter dans une émission scientifique, donc voilà, c'est quand même cohérent. Et je suis candidate au projet Mars One. Voilà.
Donc moi, je suis Joëlle Vintrebert, voilà, premier roman en 1980, toujours, on le trouve encore. Et voilà, j'ai publié plus d'une vingtaine de livres et j'ai fait feu de tout bois en matière d'écriture. Voilà, je vais passer très vite la parole à mes co-auteurs.
Sylvie Lenné, dans ma vraie vie, je suis professeure à l'université. En sciences de l'information et de la communication, et dans ma vie la plus intéressante, j'écris des petites nouvelles de science-fiction, mais j'en écris depuis longtemps.
Des grandes nouvelles de science-fiction.
Donc Catherine Dufour, ingénieure en informatique, 10 livres, 2 enfants, un chat.
Allô, oui, Elisabeth Van Harbour, écrivaine, une trentaine de livres, seulement 2 chats. Bon, ok. Traductrice aussi, un petit peu sur les bords.
Esther Cochon, montréalaise, mariée, mère, grand-mère, 12 livres, une maîtrise en mathématiques, bouddhiste.
Laure Klötzer, chercheure en psychologie, et je suis un des L de L.L. Klötzer. Donc on a fait 2 romans avec mon mari.
Jeanne de Batz, romancière adulte et jeunesse, surtout jeunesse parce que j'ai toujours 13 ans. Une dizaine de livres, pas de chats parce qu'à Paris les chats y souffrent de mon point de vue. Des enfants dont certains que j'ai pas fait, mais c'est pas grave, je les aime quand même. Voilà, prof aussi. C'est tout.
Merci, merci Jeanne. Bien, alors, je voulais juste commencer par un petit trait d'humour très rapide. Lorsqu'Hugo m'a demandé donc de modérer cette table ronde, je me suis dit, et pardon pour cette métaphore un petit peu facile, mais j'avais l'impression d'être à la tête, vous voyez, d'une écurie de F1 et de Ferrari. Parce que là, nous avons vraiment des femmes extrêmement talentueuses et donc, voilà, vous allez voir que nous allons vous apporter quand même un certain nombre de réponses, ou peut-être de non-réponses d'ailleurs, sur les femmes dans la science-fiction. Alors, la deuxième remarque, et là je vais avoir besoin évidemment de votre avis à toutes. On se demandait finalement pourquoi faire une table ronde spécifiquement sur les écrivaines donc de science-fiction aujourd'hui. Est-ce que ce débat n'est pas un petit peu finalement dépassé ?
Non. Non, ce débat n'est pas encore dépassé, malheureusement. Ça s'améliore, mais il ne faut pas être suroptimiste. Le fait qu'il y ait des écrivaines de science-fiction qui sont publiées et qui sont lues et qui gagnent des prix, c'est très bien. Maintenant, est-ce que toutes les personnes que sont ces écrivaines ont suffisamment maintenant d'assurance elles-mêmes pour prendre la parole ailleurs que dans leurs livres ? C'est la question que je me pose. Voilà.
Catherine ?
Je ne sais pas à combien de tables rondes j'ai participé sur femmes et science-fiction, femmes et fantastiques, femmes et fantasy. femme et lesbienne, femme et littérature blanche, femme et mainstream. Et je trouve, oui, que maintenant, ce genre de table ronde n'a plus lieu d'être et qu'il vaut mieux être intégré en tant qu'être humain dans une table ronde à un sujet scientifique. Voilà, et encore, ils ne nous ont pas osé nous faire femme et intelligence. Et je tenais quand même là à en profiter pour dire merci à l'organisation, à ce Zootopiel que j'ai trouvé fabuleuse, à Hugo, à Roland et à tous les bénévoles, tous les organisateurs, parce que je trouve qu'ils ont vraiment, vraiment bien réussi leur coup. Voilà.
Alors moi, ça me paraît pas idiot qu'il y ait une table ronde sur femmes et science-fiction, dans la mesure où à peu près toutes les femmes présentes, Sylvie Denis est repartie il n'y a pas longtemps, mais on a quand même la place d'être sur scène. Si on faisait une table ronde sur hommes et science-fiction, il est clair qu'ils ne tiendraient pas sur l'estrade. Donc, si on peut nous mettre tout ensemble ici, c'est quand même qu'on est très, très minoritaire.
Quand on rencontre des lecteurs, c'est souvent des lectrices. La moitié des éditeurs sont des femmes, donc je suis très confiante sur le fait que les auteurs vont suivre.
Merci.
Joël?
Oui, moi je pense que l'écriture... Ça marche, oui. Je pense que l'écriture n'a pas de sexe, évidemment, donc je rejoins un petit peu ce que disait Catherine. Mais malheureusement, quand j'ai dirigé Univers dans les années 80, je me disais, où sont les femmes? Vont-elles enfin arriver? Bon, elles ont quand même occupé majoritairement la scène, pas complètement majoritairement, hein, et elles ne sont pas tout à fait à égalité avec les auteurs masculins, même dans le monde anglo-saxon. Quoique, en fantasy peut-être, mais même... Bon, s'il te plaît, oui, Georges. Donc je me demandais où sont les femmes en France, et je continue à me demander où sont les femmes écrivains de SF en France. J'ai été rejointe très tardivement par Catherine, bon, Sylvie avait déjà commencé à publier à ce moment-là, Sylvie Denis aussi. On était vraiment, vraiment, on reste une poignée d'écrivains femmes. Voilà.
Donc, excusez-moi, on dit encore écrivain femme, ça me court.
Georges,
on va pas.
Georges, tu n'es pas un écrivain femme, tais-toi.
Juste un point très très rapide. Moi, j'ai pris le parti aujourd'hui d'utiliser le terme écrivaine. Très récemment, l'Académie française refuse la féminisation, et très officiellement la féminisation de certains mots, comme par exemple donc écrivaine, auteur, chercheuse ou chercheur. Enfin, vous voyez, le féminin n'est pas encore très très bien accepté, et notamment évidemment dans la normalisation. Mais par exemple, au Québec, je dirais que cette féminisation des noms se fait de façon naturelle. Donc voilà, c'est un parti pris et aussi une façon de rendre hommage à nos invités québécoises. Voilà, donc ça c'était le point linguistique de cette table ronde. Alors, est-ce que Jeanne et puis Florence, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet? Jeanne, peut-être?
Mon point de vue, il est partagé, il a été développé par toutes les copines là. Je suis assez d'accord avec Elisabeth sur le fait que quand même il faudrait féminiser. Je suis assez d'accord avec Sylvie sur le fait que on est toutes sur scène, et je citerai Catherine Dufour à la dernière conférence Femmes et SF à laquelle nous avons participé toutes les trois. S'il y avait une bombe là, sauf que Sylvie Denis heureusement n'est pas avec nous, il y aurait plus de SF francophone ou pratiquement. Hein, il resterait quelques rescapés rares, mais ça, les hommes n'ont pas ce risque-là, quand même. Et puis, je vais citer cette fois Sylvie, l'aînée, qui, tout à l'heure, pendant qu'on fumait la clope, disait « Ça serait quand même rigolo qu'on fasse une table ronde sur la science-fiction masculine et qu'il n'y ait que des femmes pour en parler. Je propose le sujet pour l'année prochaine. »
Donc, bonne proposition pour Hugo. Je ne sais pas si Hugo m'entend, l'idée, mais on va garder l'idée. Florence?
Oui, je trouve toujours un peu dommage qu'on soit encore obligé de faire des tables rondes à femmes et effectivement, comme si on était je sais pas, on faisait pas partie de l'humanité. En même temps, c'est bien aussi de voir que voilà, il y a des femmes de science-fiction. Ça, là, c'est filmé, ce sera en ligne. Et pour ceux qui et celles qui n'ont pas forcément idée qu'il y a vraiment des femmes de science-fiction, d'écrivaines de science-fiction en France, au moins voilà, elles sont là. On le sait, ça sera en ligne, ça tournera, ça fera des milliers de vues. Et c'est une bonne image à donner aussi. Maintenant, ce serait mieux d'arriver au fait que, oui, on ne se pose même plus la question qu'il y ait des femmes ou non dans l'écriture de science-fiction.
D'accord, merci. Alors justement, on va rebondir. Alors je sais bien qu'Elisabeth n'aime pas tellement ce terme, parce qu'elle nous dit toujours les Français rebondissent beaucoup, mais on va quand même rebondir sur ce sujet. Alors moi, je voudrais partir quand même d'un constat. On va quitter un petit peu la partie sociologique pour aller plutôt vers la partie création, parce que sur le constat que quand même, d'abord les femmes pénètrent de plus en plus des bastions masculins, comme par exemple les jeux de rôle, les jeux vidéo. Ensuite, dans la création proprement dite, au cinéma, dans les séries, les héros sont quand même aujourd'hui beaucoup des héroïnes. Et donc, je voulais quand même avoir votre avis sur finalement cette espèce de basculement finalement des sexes au niveau du personnage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, le personnage féminin, eh bien, est porteur, eh bien, justement, de la charge héroïque, donc dans les récits ou tout simplement au cinéma. Joël,
moi, je voudrais dire juste pour le jeu vidéo, tu peux les chercher les héroïnes dans le jeu vidéo depuis Lara Croft. Où sont les héroïnes dans le jeu vidéo, hein? Voilà. Alors dans le cinéma, effectivement, c'est pas pareil. Mais au niveau du jeu vidéo, on les cherche, hein.
Alors je parlais peut-être plus au niveau du jeu vidéo, qu'il y a de plus en plus donc de jeunes filles, de filles,
créatrices,
de femmes qui sont créatrices de jeux vidéo aussi. Vous voyez, c'est peut-être
alors,
dans ce sens-là. Voilà.
Il y a vraiment une étrangeté.
Voilà.
Mais il y a d'ailleurs, je suppose qu'il y en a pas mal entre vous qui l'ont suivi. Il y a de gros problèmes. Je ne sais plus comment s'appelle cette fille là qui se bat énergiquement pour changer un peu les représentations misogynes de la femme dans les jeux vidéo et qui reçoit effectivement des menaces de mort, des menaces de viol et qui devait donner une conférence dans l'Utah. Mais dans l'Utah, on a le droit de porter une arme. Et elle a dit, moi je peux pas faire ma conférence si vous fouillez pas les gens à l'entrée, histoire de pas me faire dessouder sur scène, parce qu'on m'a promis de venir dans la salle pour me dessouder sur scène. Et ils ont refusé de fouiller les gens à l'entrée, donc finalement, elle n'y est pas allée. Et elle a de plus en plus de mal à avancer dans... En plus, c'est pas genre le lourd combat où elle essaierait de retourner des mafias russes comme des crêpes, hein. Elle fait des trucs assez rigolos pour se moquer de l'aspect franchement caricatural de la vision de la femme dans les jeux vidéo. Et elle se fait allumer par tout un tas de masculinistes pour qui le jeu vidéo restait un peu le dernier refuge d'un monde qui le regrette, où il y avait une domination évidente de l'homme, si possible blanc, sur tout ce qui est féminin ou plus coloré. Donc visiblement, le jeu vidéo représente quand même une façon de s'échapper d'un monde qui devient de plus en plus égalitaire. Mmh. Et qui fait très peur à certains. Et elle, c'est une femme qui a bien du mérite et qui risque vraiment sa peau là-bas.
Mais justement, c'est parce que c'est le dernier bastion que ça réagit tellement fort. Mais tu disais, on va abandonner le sociologique pour la création, mais on peut pas vraiment, on peut pas non plus abandonner le politique parce que et l'économique donc parce que. Si on regarde ce qui se passe dans la littérature pour jeunes adultes, je ne sais jamais trop quel âge ça couvre, mais bon, il y a de plus en plus... Bon, on a vu Hunger Games et Divergent et tout ce genre de choses. Il y a de plus en plus de jeunes héroïnes adolescentes, etc. Alors on se dit, oh, youpi, voilà des nouveaux modèles, etc. Sauf que moi, ma petite voix cynique me dit ce que d'autres ont dit à d'autres tables rondes. Oui, c'est une catégorie marchande fort intéressante. Je pense que c'est Anne Larue... Plus on multiplie les catégories commerciales, plus on a de chances de faire du fric.
Donc ce serait du marketing, Elisabeth.
Il y a du marketing beaucoup là-dedans. Maintenant, Nous ne sommes pas des purs animaux, nous ne sommes pas des chiens ni des chiennes de Pavlov. Et donc, ce que nous prenons dans ce que le commercial nous propose, c'est notre choix, c'est notre liberté qui choisit. Et donc, nous pouvons choisir non pas de nous voir comme une catégorie commerciale, mais de nous voir justement avec pourvu de nouveaux modèles. Et ça, c'est quelque chose que les commerciaux ne peuvent pas totalement contrôler, je pense.
Je vais réagir à ce que vient de dire Elisabeth. Effectivement, je partage ton analyse dans l'ensemble, mais je ne peux pas m'empêcher d'y trouver un aspect positif, c'est celui de la représentation. Parce que jusque-là, la représentation, on n'y avait pas accès, sauf avec des femmes de type, en fait, ce sont des mecs, mais elles ont des seins. Là, de plus en plus, on a des héroïnes femmes dans lesquelles... n'importe qui dans la salle pourrait éventuellement se reconnaître parce que tout le monde ne manie pas le laser et le tir à l'arc. Et malgré tout, c'est très important pour les choix ultérieurs. Même si on le trouve dans la pub pour vendre un bouquin pas toujours terrible, ça fait rien, elles existent. Il y a un film là qui vient de sortir, je ne me souviens pas du titre, où ça doit être Bande de filles. Les héroïnes sont trois jeunes filles black. Et un article est paru après, qui était l'invisibilité de la femme noire en France. On voit bien des héros noirs, Isaac de Bancolet, etc., a très souvent des rôles, etc., positifs. Il y en a encore un que j'aime beaucoup.
Omar Sy.
Voilà. Mais les jeunes filles noires ne sont pas représentées. Et le film, si mauvais soit-il, éventuellement, c'est pas très grave. Parce que enfin, les jeunes filles du 20e arrondissement vont avoir peut-être une vision un peu positive d'elles-mêmes, même si caricaturale. Il faut avancer à petits pas parfois. Ça n'est un petit.
Les femmes asiatiques sont plus représentées que les femmes noires, effectivement.
Laure ?
Moi, je rêve de passer en revue les livres nominés pour les prix du festival et de mettre dessus un sticker, comme dans les bibliothèques jeunesse, attentif au potentiel féminin. Parce que les personnages féminins dans les romans, c'est très bien, mais il faut voir avec quel rôle encore. Là, je viens d'en terminer un, très bon, je ne vous donne pas de titre. Il y a deux femmes qui sont mises en scène. Il y en a une qui officie dans les maisons de plaisir et qui finit par connaître parfaitement le cœur des hommes. Et l'autre qui est la sœur du héros qui va se faire exclure d'un ordre guerrier parce qu'elle n'est pas assez obéissante.
C'est ça, en fait, le problème, c'est pas tant la place des femmes, mais l'image qu'on leur donne. Et il y a de très rares exemples d'images positives d'une femme. Je pense à la série Fringe, où l'héroïne est une femme, et elle est parfaite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réduite à une maternité, elle n'est pas réduite à sa sexualité, elle n'est pas réduite à son rôle d'épouse. Elle a vraiment un métier, elle a des qualités, des défauts, etc., sans qu'on la réduise à quoi que ce soit, à un aspect typiquement féminin. Mais c'est pas le cas partout. Hunger Games est encore un bon exemple, mais c'est difficile. Souvent en science-fiction, mais même ailleurs, les femmes sont encore réduites au rôle de petite amie de, épouse de, mère de. Sarah Connor, par exemple, c'est un personnage féminin fort dans la science-fiction, mais Sarah Connor n'existerait pas si elle n'était pas la mère de John Connor. Et ça pose encore le problème. Donc les femmes, il y en a, mais c'est pas tant la quantité qu'il faut regarder, mais la qualité. Et là, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire.
Ouais, moi je voulais dire, c'est pour revenir aux jeux vidéo, il y a un aspect gênant, parce que le personnage féminin de jeux vidéo, alors déjà, bon, elles n'arrêtent pas de s'occuper des petites fleurs, c'est agaçant. Elles ont un tour de hanche, un rapport tour de hanche, tour de sein. C'est juste impossible de soulever une épée à deux mains avec un corps conformé comme ça. Et alors, elles passent leur temps à haleter, quoi. Quand elles marchent, elles ont des espèces de... allaitements. Et alors, dès qu'elles donnent un coup, qu'elles prennent un coup, il y a une espèce de hurlement orgasmique. Moi, je ne peux pas jouer avec mes enfants, quoi. C'est juste trop la honte. Il y a un vrai... Oui, ça... Oui. Il y a peut-être... Je choisis mal mes jeux, mais si vous avez des noms de jeux vidéo pas trop neuneux au niveau représentation de la femme, je suis preneuse.
Merci, Catherine. Esther ?
Je voudrais simplement pour ce qui est de la représentation de la femme, pensez à la question de l'âge aussi, parce que ces héroïnes-là, qu'elles viennent du monde du fantastique, science-fiction ou même des séries télévisées standards, sont toujours de jolies jeunes femmes qui présentent extrêmement bien. Et quelqu'un m'a fait remarquer hier, positivement par rapport à mon roman La rivière des morts, que j'avais une héroïne qui était dans la cinquantaine, qui n'était pas particulièrement jolie et qui avait tout de même des pouvoirs extraordinaires et qui la réjouissaient beaucoup et qu'elle n'avait pas besoin de changer son apparence pour autant. Je pense qu'il y a peut-être ce mouvement-là chez certaines d'entre nous, écrivaines aussi, de changer une représentation systématiquement jolie, sexée, attrayante et de voir que nous avons différentes saisons dans notre vie.
Oui, sans compter que les femmes de pouvoir dans la réalité ne correspondent absolument pas, je dirais, à ces standards de beauté. Voilà, j'ai une image là comme ça qui me vient en tête, mais je pense au secrétaire d'État aux États-Unis, par exemple, dans le gouvernement américain, sont rarement choisis quand même sur des critères physiques. Elisabeth.
C'est pas seulement la représentation physique de la femme, ce sont aussi les réseaux sociaux où elle est prise. Tu disais, elle est mère, de fille, etc. Mais c'est pas seulement ça, c'est que ce qui me dérange beaucoup souvent dans les histoires où il y a des femmes comme personnages principaux, c'est qu'elles n'ont pas de rapports horizontaux avec d'autres femmes. Elles ont des rapports avec des hommes, pour ou contre, peu importe dans quel sens, vertical ou horizontal, mais elles n'ont pas de rapport avec d'autres femmes. Ou alors ce sont des rapports systématiquement conflictuels. Et ça me fatigue parce que c'est encore une femme patriarcalisée. J'ai entendu ce terme ici, je le trouve très cute, très mignon. Et alors que, par exemple, on parlait des séries télé, j'ai pensé à Orphan Black. Je ne sais pas si cette série, oui, je pense que cette série a traversé l'Atlantique, où vous avez, non, le concept est génial parce que ce sont des clones de filles et elles ont formé une société de défense des clones parce que quelqu'un essaie au départ de les zigouiller, ensuite de les récupérer, bon, et elles ont des rapports entre elles véritablement amicaux, familiaux, amoureux, et ça j'ai trouvé que c'était nouveau parce que j'avais jamais vu ça à la télé.
Oui, mais peut-être que la représentation évolue aussi.
À la télé, mais dans tes livres.
Dans mes livres, c'est difficile d'avoir des relations femme à femme. J'en ai dans mon dernier, dans Hôtel Olympia. Elle retrouve des amis d'enfance, qui sont aussi bien des gars que des filles. Mais la véritable relation qu'elle avait, c'était avec une des filles, par exemple.
Chronique du Pays des Mers.
Je voulais intervenir.
Dans nos livres et dans les livres d'un certain nombre d'auteurs femmes qu'on connaît, d'auteurs, si tu préfères, Elisabeth, qu'on connaît, il y a ces relations de femme à femme dont on peut pas nier. Puis je voudrais quand même m'inscrire un petit peu en faux par rapport aux livres d'un certain nombre d'auteurs hommes. Pour dire que on est quand même plus au stade où on pouvait lire dans les années 70-80 des livres comme Mise en drap de Claude Veillot ou Les hommes protégés de Robert Merle, que ça a quand même beaucoup évolué et que j'ai pas l'impression qu'on lirait encore maintenant des brûlots anti-féministes aujourd'hui. Ça, j'ai pas l'impression qu'on lirait encore ce genre de choses.
Et puis, mais on le publierait encore.
Bah, y a Zemmour,
oui, qu'on le publierait encore. Non, mais Zemmour, c'est pas de la fiction. Voilà. Bon, Zemmour, effectivement, on se demande comment il peut être publié, mais bon, il y a des lecteurs pour ça, puisque ça fait un tabac. Et moi, je pense à... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais parce que Bifrost vient de paraître, mais la nouvelle que Thomas Day vient de faire paraître, qui s'appelle Nock Kerrigan, dans le dernier Bifrost... C'est Thomas D. Il met en scène souvent des personnages de femmes très 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 forts. Et là, on a un personnage de fille absolument extraordinaire. Et justement, il y a un rapport transversal avec la mère qui est merveilleux. Donc, on peut pas mettre toute la littérature dans le même panier en disant voilà, faut pas être complètement réducteur.
Sylvie ?
Oui, on est aux Utopiales avec une thématique intelligence et on n'est pas dans une table ronde imaginaire, on est dans une table ronde science-fiction. Je pense qu'on ne peut pas essayer de comprendre ce qui se passe dans le milieu de la science-fiction sans se demander ce qui se passe dans le milieu de la science. Et je pense que Florence sera d'accord avec moi. Je vous trouve optimiste et vous avez sans doute raison sur le fait que la science-fiction a élargi ses modes de représentation de ce qu'était la femme. Dans le milieu de la science, c'est encore très dur. Le plafond de verre, j'ai même l'impression qu'il est en train de descendre ces derniers temps. Je n'ai pas du tout l'impression que les choses s'arrangent. Elles s'arrangent pour les scientifiques qui démarrent une carrière, pour faire une thèse, pour rentrer à l'université. Il n'y a pas de difficulté particulière pour les femmes, sauf peut-être dans certains secteurs. À plus haut niveau, si vous regardez qui sont les présidents d'université, qui fait partie des équipes présidentielles, là, vous verrez que la différenciation, elle est très nette. C'est-à-dire que les femmes ont tout à fait leur place dans le monde scientifique, mais que pour avoir un minimum de pouvoir dans le milieu de la science, il faut mieux avoir une sacrée personnalité, disons.
Oui, c'est vrai que dans la tête au carré, l'équipe qui programme les invités essaye souvent de respecter la parité. Une femme scientifique, un homme scientifique, en tout cas d'avoir des plateaux pas trop déséquilibrés. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident et on s'en rend compte du coup tous les jours. Et moi je suis pas scientifique mais j'en côtoie beaucoup et effectivement après une thèse ou ce genre de choses, il y en a des femmes en thèse, mais le problème c'est qu'elles partent après vers plutôt l'enseignement ou ensuite elles font autre chose, de la communication ou du journalisme. Parce que c'est plus compliqué pour une femme, m'ont-elle dit, de faire de la recherche, surtout dans les sciences dures. Il y en a pas mal en sciences du vivant, en biologie, dans ce genre de choses. Mais en ce qui concerne la physique des particules ou l'astrophysique, c'est compliqué, quoi. C'est encore très compliqué. En 2014, c'est quand même très inquiétant. Voilà.
Oui, c'est compliqué tout simplement parce que on assigne encore à la femme et nous fixons aussi parfois nous-mêmes des limites, c'est-à-dire que quand nous avons une famille, il faut faire tourner la maison, il faut s'occuper de l'éducation.
Mais les enfants sont tout à fait.
Souvent ce sont les femmes qui prennent en charge ça. Et donc la réalité, parce qu'on peut se projeter et avoir une vision utopique finalement de la chose, mais la réalité c'est que ce sont souvent les femmes qui prennent en charge cela, et donc c'est beaucoup plus difficile, par exemple, de participer à des colloques, c'est beaucoup plus difficile d'écrire, de se poser, de réfléchir à des projets, de passer du temps le soir, par exemple. Je pense que le plafond de verre...
Oui, mais c'est pas normal.
Non, mais absolument, je suis parfaitement d'accord, mais le constat, il est là.
Je m'inscris énergiquement en faux là-dessus, puisque une femme en moyenne génite entre 25 et 35 ans peut être un peu plus tard, un peu plus tôt. Bref, là où on fait vraiment la carrière, là où on décroche ou on ne décroche pas la grosse promotion qui va vous propulser, c'est après 45. Logiquement, justement, je dirais que les femmes commencent à heurter le plafond de verre à l'âge où elles commencent à pouvoir, une fois dégagées des obligations maternelles, là où elles pourraient effectivement se remettre à travailler à 20 heures sur 24. Et où elles ont envie de le faire, c'est à ce moment-là qu'on leur dit « Oh mais non, vous ne pouvez pas, car vous devez vous occuper de vos enfants. Non, mon gamin, il a 23 ans, c'est bon, il n'a plus besoin de moi. » Donc là, je trouve que là, ça, c'est un gros mensonge. Moi, je travaille dans une université. Alors, c'est vrai qu'attendre de la hiérarchie universitaire que ça soit la chose la moins dépoussiérée du monde, c'est peut-être pas très intelligent. C'est quand même des structures qui sont assez anciennes, qui ont du mal à évoluer. Mais c'est très clair, les chefs de service, ce sont des chefs de service sans eux. Donc moi, on m'a proposé une place pour gérer un service, mais il était évident que je n'aurais pas le titre. Je pouvais avoir le boulot, mais je n'aurais ni le titre ni la paye. Donc là, moi, j'ai dit fuck. Mais c'est un homme, ce sont des hommes qui sont à ces postes-là, même si la totalité du travail, un échelon en dessous, est fait par des femmes.
D'ailleurs, j'aimerais savoir au niveau des écrivaines, tiens, ça, l'idée vient de me traverser l'esprit, est-ce que les écrivaines, du moins dans les pays où il y a des avances sur manuscrits, etc., est-ce que les écrivaines se voient proposer les mêmes sommes que les écrivains hommes ? Est-ce qu'on leur propose aussi souvent qu'aux hommes des avances sur leurs manuscrits ? Il faudrait qu'on ait des auteurs non francophones, peut-être, pour nous dire ça. Est-ce que Jo Walton est quelque part là-dedans ? Non, elle n'est pas là.
Non, je vois pas.
Mais voilà, c'est ce genre de... On oublie un peu trop, là. C'est pour ça que j'ai tendance à trouver qu'on est un petit peu optimiste. C'est qu'on oublie tout le reste. On oublie que les écrivaines de science-fiction n'existent pas dans un vide socio-politico-économique. Et c'est les pesanteurs de ces milieux-là les tirent vers le bas, inévitablement, comme toutes les autres femmes.
Laure ?
Nous, on écrit à deux et on a 50-50, mais on est un très bon éditeur. Donc...
Oh, super.
chanceuse.
J'ai vu passer pas mal de contrats des copains et des copines. Et au sein de ma maison mère, la Talente, je sais que c'est tout le monde paraît, que ça soit en adulte ou en jeunesse, ou en femme ou homme. Donc on est tous sur le même plan. Dans la plupart des maisons d'édition que je connais, c'est le cas. Et je ne me rappelle même pas d'avoir vu une disparité, sauf sur un point. Parfois, l'auteur qui a signé et qui a un contrat un tout petit peu plus haut, il est plus célèbre que toi. Donc il y a une vague logique quand même. Mais c'est pas lié, je l'ai jamais vu lié au genre, tu vois.
Ah bah youpi, alors, tant mieux.
Mais pas en France. Ouais. Hein, et là, je le dis à mon petit niveau. Mais ça, vraiment...
Je crois que personne n'a doute sur le fait qu'il n'y a absolument aucun sexisme chez les éditeurs. Je crois pas qu'aucun d'entre nous n'en ait trouvé la moindre trace. Par contre, moi, je soupçonne que quelquefois, il y en a peut-être chez les lecteurs. Et je dis ça parce que j'ai vu des réactions dans des forums de discussion par rapport à des textes que des gens n'avaient jamais lus, par rapport à des auteurs qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et j'ai vu des réactions, vous en avez peut-être vu aussi, disant « Ah oui, mais c'est une femme. Ah, mais ça va être gentil. Ça va être un peu niais. Si en plus quelqu'un a employé quelque part l'adjectif poétique, alors là, c'est mort, c'est sûr, je ne vais pas aimer du tout. »
Ça va être psychologique.
Ah, ça, c'est horrible.
Oui, l'héritage de La Princesse de Clèves est lourd à porter.
Qui est un très bon roman. Hein,
oui, oui, absolument, non. Oui, Joël.
Oui, non, je voulais dire qu'effectivement, au niveau contrat, le fait qu'il puisse y avoir des disparités entre des auteurs, ça ne sera pas lié au genre, ça sera lié éventuellement à un statut, à la notoriété, quoi. Voilà. Voilà. Une notoriété différente. C'est-à-dire le fait qu'un auteur va... du fait qu'il y ait un best-seller, si tu veux. Voilà. Donc, il aura un meilleur contrat.
Alors, je vois que le temps passe un petit peu. J'avais une question, moi, à vous poser. Bon, peut-être pas sur le style, parce que c'est un petit peu bateau. Enfin, existe-t-il un style féminin ou pas? Mais voilà, non, mais plutôt, je dirais plutôt peut-être sur les personnages. Vraiment, parce que j'ai envie de revenir à cette notion de personnage, parce que le personnage, c'est évidemment ce qui va porter le récit. Et je voudrais quand même que vous me disiez toutes, est-ce que le fait d'être une femme va influer finalement sur la création de vos personnages? Personnage peut-être sur la représentation du personnage, que ce soit un personnage féminin ou un personnage masculin. Voilà, est-ce que vous êtes plus tentée, par exemple, de créer des personnages féminins pour lui faire porter finalement un certain nombre d'idées, ou au contraire, est-ce que ça n'a strictement aucune importance?
Oui, voilà. Ça dépend des saisons dans la vie d'une écrivaine, parce qu'il y a un moment donné où on se sent porteuse d'une mission. Et alors c'est vraiment chiant quand on est une femme, quoi, parce que non seulement il faut qu'on écrive, mais en plus il faut qu'on, si on est féministe, il faut aussi qu'on défende alors le rôle des femmes, la représentation des femmes. Et alors ça fait tout un tas de contraintes d'écriture supplémentaires, mais c'est très fatigant. Bon. Alors, il arrive un moment où on se dit la barbe. Moi, il y a un moment donné où je me suis dit, OK, si ce personnage me vient comme homme, je vais me poser la question, est-ce que ce serait mieux si c'était une femme? Si mon histoire me dit non, ce sera un homme. Si mon histoire me dit oui, ce sera une femme. Il y a un moment où il faut s'arrêter de ce... Bon, voilà, c'est ça. Alors, c'est ça, essentiellement. Et les personnages... J'ai du mal à faire vieillir mes personnages. Dans mon dernier... Je voulais lui mettre mon âge, c'est-à-dire 67. Puis finalement, je lui dis, ah non, je me sens 10 ans plus jeune, je vais la mettre seulement à 57.
Mais ça, c'est la liberté totale de l'écrivaine. Voilà. Esther?
Je pense qu'effectivement, la liberté, dans mon cas, a primé toujours. C'est-à-dire que je raconte l'histoire que j'ai envie de raconter. Je ne suis pas en train de me dire, oh, il faut que je défende ceci ou cela. Et malheureusement, j'ai des lecteurs, effectivement, ou des absences de lecteurs, des gens qui m'ont déjà dit, ah, je ne te lis pas puisque tu es une femme et que je n'aime pas ce qu'écrivent les femmes. Alors donc, je ne vais pas te donner ta chance. Bon, alors on le prend comme c'est là. Les gens ont quand même leur liberté de lecteur aussi. Et si j'ai ma liberté comme écrivaine, ils ont droit à leur liberté eux aussi, je le leur concède. Mais quand je regarde mes personnages typiquement féminins, je vois que c'est des êtres qui se transforment et qui, volontairement ou non, et qui vont découvrir justement leur part de non-féminité. On est tous effroyablement complexes avec des aptitudes qu'on se refuse à admettre pour soi-même. Et donc, pour moi, c'est vraiment un moteur qui peut être une problématique de femme, mais qui ne paraît pas définitivement comme ça.
Très bien. Jeanne, et puis Laure, peut-être.
Mes toutes premières nouvelles publiées racontaient une histoire de jeune femme qui avait eu un accident de spéléologie en compagnie de son futur ex-mari. Il fait tout pour ça hein, pendant l'aventure, et de deux de ses potes, et la minette s'en tirait vachement bien, tandis que les autres étaient juste cataclysmiquement crétins et lourds, et en gros il lui devait la peau. Quand elle est parue, j'ai eu des réflexions du style mais encore une histoire féministe, tu penses que tous les mecs sont des cons et qu'il n'y a que les filles qui puissent prendre en charge, assumer, etc. C'était pas du tout le cas. J'avais pas du tout écrit cette histoire comme ça. C'était juste que ma pauvre Alix, elle s'était encombrée de trois crétins et qu'elle les avait choisis quelque part. Donc c'était bien. Voilà. Et à partir de là, effectivement, il y a eu un moment où je me suis toujours interrogée sur quel va être le sexe de mon héros pour ne pas porter un propos que je n'ai pas forcément envie de porter. Résultat des courses, mon premier texte important, elle avait 80 balais, la nana, et elle était mourante et c'était une garce. Donc, elle portait pas vraiment un propos.
Jeanne, la vieille dame,
la vieille anglaise et le continent.
Voilà, la vieille anglaise et le continent.
Résultat des courses, pendant un certain temps, je ne savais plus faire que des nanas insupportables, acariâtres, pas forcément, mais alors pas du tout sexy. Donc voilà. Et puis j'ai eu ce passage-là que vous avez eu, où je me suis dit, comme dirait Catherine, fuck, j'écrirai le personnage qui va avec l'histoire. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il ira se faire.
Laure ?
Peut-être ? Je repensais au casse du continuum de Léo Henry, où il a intentionnellement inversé les sexes des clichés. Donc le spécialiste en explosifs, c'est une femme, la séductrice, c'est un homme, voilà. Et c'est une démarche intéressante sur des exercices de style, enfin sur un. Comme, si on se donne ça comme objectif sur un manuscrit, ça peut être une contrainte très, très amusante. Je rejoins complètement mes collègues sur le fait que c'est d'abord la liberté d'essayer d'attraper pour moi quelque chose qui relève de la vérité, quoi, de la réalité. On essaye d'attraper avec la fiction quelque chose de la réalité. Donc après, la réalité, elle est très complexe et elle se donne sous certaines facettes avec les personnages qu'on a à un moment donné. Voilà. Donc dans Anamnèse de Lady Star, il y a trois personnages principaux. Il y en a deux qui sont des femmes. Je pense pas que ça vienne. Je pense pas que le fait qu'un des auteurs soit une femme ait plus influencé les personnages féminins que le personnage masculin. Non.
D'accord. Alors, je me tourne de l'autre côté. Joël, Sylvie et Catherine.
Oui, moi, dans les textes que j'ai écrits, je pense que j'ai des personnages masculins, j'ai des personnages féminins. Il est évident que quand on a une idée d'histoire, des personnages s'imposent. Et on se pose pas la question, est-ce que ça va être un garçon, est-ce que ça va être une fille, est-ce qu'il vaut mieux que ça soit un garçon, est-ce qu'il vaut mieux que ça soit une fille. Le personnage s'impose, il est là, il naît dans votre tête, il naît tout armé quelquefois, ou quelquefois, bon, il va se dessiner progressivement, mais on se pose vraiment pas la question, est-ce qu'il faut que ça soit un garçon, est-ce qu'il faut que ça soit une fille, pas du tout. Et puis, non, t'es pas d'accord. Peut-être
qu'on devrait se poser la question parce qu'il y a des effets de parasites et des effets de réflexes et des effets de pente qu'on descend. Surtout quand on est des jeunes auteurs, pour nous autres qui sommes des merveilleuses affirmées depuis longtemps, ça se pose plus. Mais quand on est un jeune auteur ou une jeune auteure avec un E, on devrait se poser la question parce que c'est peut-être un réflexe. Ah ben j'ai vu tellement de gars que je vais faire un gars. On s'en rend même pas compte. Excuse-moi.
Alors, peut-être un jeune auteur devrait-il se poser la question, mais c'est vrai que moi, quand j'ai écrit mon premier roman, je me suis absolument pas posé la question. J'ai sorti mes tripes, et puis effectivement, je me suis pas dit est-ce que je dois mettre en scène un garçon plutôt qu'une fille ? Pas du tout. Les personnages étaient là, et ils devaient porter mon histoire. J'avais mon héroïne, j'avais d'ailleurs deux personnages qui étaient plutôt des adolescentes, et c'était comme ça, quoi. Voilà. La question ne se posait pas. Mais par ailleurs, on peut s'amuser. Enfin, je me suis amusée à écrire une nouvelle qui était un peu un exercice de style, qui est dans mon recueil de nouvelles, où j'ai pris le parti que le lecteur ne devait absolument pas connaître le sexe du personnage. Voilà.
Et en français, c'est pas de la tarte.
Oui. Et ça, c'est très très amusant à écrire parce que c'est complètement un test projectif pour le lecteur. Donc certains de mes lecteurs me disent « Ah, mais c'est forcément une femme !» Et dans ma tête, « Ah !» Je n'en dirai pas plus.
Sylvie ? Oui, alors, moi je suis assez d'accord avec Joël, on se pose pas... Enfin, je me suis jamais posé la question « Est-ce que je parle d'un homme ou d'une femme ?» Mais de fait... J'ai beaucoup plus écrit des histoires où je mettais en scène des femmes parce que je les connais mieux de l'intérieur. Mais il y a au moins deux fois où je me suis livrée consciemment à un exercice extrêmement intéressant. C'est d'écrire des femmes en creux en se mettant dans la peau de l'homme et en essayant de comprendre comment se construisait le regard de l'homme sur la femme. C'est ce que j'ai fait dans Les yeux d'Elsa et dans La buldeuse. Et pour essayer de comprendre simplement... On a quand même souvent l'impression d'être perçu à travers un filtre, un ensemble d'a priori. On a probablement tous ce type de regard-là les uns sur les autres, mais nous, on le sent bien. Et pour essayer de comprendre comment ça marchait et comment c'était compatible avec un réel respect, un réel amour, mais que ça existait quand même.
Catherine.
Alors non, mais je me rends compte que je ne me suis juste jamais posé la question... Non, moi, mes personnages ont en commun pas un appareil génital spécifique, mais plus, je m'en aperçois, une certaine solitude. Il n'y a qu'un seul livre où j'ai vraiment joué avec les genres, c'est dans Outrage et Rébellion, parce qu'il y a une plasticité de l'être humain. Donc, effectivement, comme les gens vivent dans un espace réduit, il faut qu'ils jouent avec le virtuel et qu'ils jouent avec leur corps. La biotechnologie étant très avancée, il y en a par exemple qui se font greffer des foufounes tout le long de la jambe pour se faire baiser jusqu'à l'os. Il y en a d'autres qui se font greffer des clitoris en série derrière le genou pour pouvoir passer le temps agréablement quand ils attendent chez le dentiste. Mais ils changent de larynx tous les matins, de pharynx tous les soirs, de couleur d'yeux 3 fois par jour. Donc le genre n'est qu'une chose parmi d'autres qui change régulièrement, sauf effectivement le héros qui fait scandale parce que c'est un garçon, et puis il est laid, et puis il a une petite bite. Et le scandale est qu'on lui dit, mais fais un peu de chirurgie esthétique, et puis fais-toi greffer un appareil génital un peu plus imposant que ça, et il ne veut pas. Il refuse de s'améliorer, et c'est en ça, effectivement, dans ce livre-là, qu'il fait scandale, en restant désespérément tel qu'il est né.
Et si je peux me permettre,
oui, bien sûr.
Il n'y a pas que les personnages de fiction, il y a les personnages aussi de réalité. Je ne sais pas, est-ce que je peux faire un petit sondage ? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui étaient là à la présentation de Roméo hier ? D'accord. Roméo, c'est un robot. Bon, ils lui ont donné le genre masculin. Admettons, il y avait une chance sur deux. Est-ce que je suis la seule à avoir été hyper mal à l'aise pendant la chanson il commence à dire, voilà, je plais beaucoup aux personnes âgées, aux infirmières. Et ensuite, on a la phrase merveilleuse, je sers à attraper les cochonnes rient par terre. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été mal à l'aise pendant la chanson ou est-ce que je suis la seule ? Merci, vous me rassurez beaucoup. C'était tout. Et ce sont des hommes, je pense, qui font les algorithmes du robot et qui le programment et qui travaillent sur le projet.
Oui, donc comme quoi, on n'est pas rendu. On va proposer de faire une version Juliette.
Hein, Florence. Oui, non, mais peu importe. Ça reste un robot, c'est un objet, ça devrait être neutre. Et le fait de le sexualiser à ce point et d'écrire des paroles de chansons à ce point limite, enfin il y avait des tas d'enfants dans la salle et je me dis que c'est pas un bel exemple de, enfin c'est encore voilà, on a du chemin à faire quoi, et ça m'a un peu désolée parce qu'il m'avait convaincu ce robot, il était drôle et voilà, et le fait aussi qu'il demande l'âge, enfin pour le test de l'âge, qu'à chaque fois pour les filles on dise je donne pas l'âge d'une dame, on peut arrêter avec ces conneries là maintenant, moi j'ai 31 ans et j'en ai rien à foutre, enfin et quand j'en aurai 95 ce sera la même chose. Ouais. Voilà, c'était pour Roméo, le pauvre, il en prend pour son grade, mais...
Oui, bien sûr. Bon, moi, j'ai 48 ans et je trouve que, petit 1, si le sexisme, la misogynie était le seul apanage des hommes, on serait les maîtresses du monde. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus misogynes qu'un code Napoléon et c'est un peu la galère. Et le deuxième point, ben, il vient juste de m'échapper, donc dès que ça me revient, je vous le dis.
Mais ça va revenir, Catherine, peut-être pendant les questions.
Ah oui, alors, si, la sexualisation, oui, c'est voilà, insupportable. Que ce soit Roméo, le robot bleu, ou les tas de jouets roses dans les magasins. Maintenant, il y a des Monopoly roses, spéciales filles, des Lego roses et Playmobil. C'est insupportable. Voilà, je tenais à le dire.
Bien, nous allons maintenant passer aux questions dans le public. Donc, je ne sais pas, rapidement, puisqu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Donc, je crois que nous avons... voilà.
Alors, je me permets de prendre le micro en premier, parce que c'est moi qui le donne aux autres.
Oui.
J'ai pas de questions à poser, mais j'ai quelque chose à ajouter. En début de conférence, vous avez demandé qu'on vous nomme des héroïnes de jeux vidéo. Et j'en ai deux qui me viennent en tête. D'abord, Samus, qui est dans le jeu Metroid, qui date de la fin des années 80, qui est un personnage qui est au départ présenté comme un soldat de l'espace.
Métro quoi ?
Metroid. Et donc, c'est ce personnage qui désingue des extraterrestres pendant tout le jeu, il s'avère qu'à la fin, en fait, c'est une femme. Je pense aussi à Portal, qui est un jeu qui joue à la première personne, et le personnage est également une femme. Alors, les personnages en eux-mêmes ne sont pas très intéressants, dans le sens où la personnalité du personnage n'est pas développée pendant le jeu. Mais comme disait Jeanne, ce qui me semble important ici, c'est la représentation. Et surtout, contrairement à des personnages comme Lara Croft, c'est des personnages qui ne sont pas hyper sexualisés. Voilà.
Merci de cette remarque. D'autres questions ? Oui ? Alors là, et là, et le monsieur là.
Bonjour. Alors moi, j'ai 26 ans. Voilà. Ça, on continue dans la foulée. Je voulais vous parler aussi de Yoko Tsuno. Personne n'en a parlé. C'est plus de la
BD.
Bien
sûr, Jacob.
Mais pour le coup, c'est un homme qui l'a écrit et je voulais savoir si vous aviez quelque chose à lui reprocher. Voilà.
Ah non, je pense que non, nous n'avons strictement rien à lui reprocher. Ce n'était pas le propos. Ou bien au contraire, je dirais que c'est même précurseur par rapport aux représentations de l'héroïne. Jeanne.
Alors que ceci soit bien clair, j'ai adoré Yoko Tsuno quand j'étais petite. Je peux encore en relire avec un plaisir qui revient à chaque fois. Mais j'aurais peut-être un tout petit reproche à lui faire. Et à la limite, c'est peut-être pas, j'ai peut-être pas raison. Hein. Donc voilà, c'est mon hypothèse, c'était que Yoko Tsuno, elle est japonaise. Donc à l'époque, elle était crédible en tant que scientifique. Et j'ai eu l'impression quand j'étais petite, à ce moment-là, que en tant que physicienne, une jeune femme francophone, enfin, aurait peut-être pas été crédible. Mais je me plante peut-être, et puis... Attends, je me plante peut-être, et peut-être que c'était une façon de représenter les Asiatiques en France. Enfin, voilà, au niveau de l'image. Mais c'est le seul reproche que je pourrais faire éventuellement à Yoko Tsuno. Il y avait un truc que j'aimais beaucoup dans Yoko Tsuno, c'est qu'elle se croyait pas obligée de coucher avec ses copains.
Merci, Jeanne. Alors, monsieur ?
Oui, bonjour. Alors, vous avez peut-être pensé que ma question véhicule un certain stéréotype. Je voulais savoir si l'écriture à quatre mains, homme-femme, est-ce qu'elle apportait quelque chose d'un point de vue strictement créatif sur la complexité des personnages. Voilà.
Oui, mais ça, c'est une question pour Laure.
Oui, c'est une question ciblée. Hein.
Ouais.
L'écriture à quatre mains, elle apporte quelque chose parce qu'on est deux et en plus, on écrit en couple. Donc, c'est quand même très spécifique. Sur la complexité des personnages, oui, bien sûr, mais c'est difficile de dire quelle est la part de l'un, quelle est la part de l'autre. On est incapable de le dire, on en a parlé. C'est pas les idées de l'un et les idées de l'autre. C'est à un moment donné, on a chacun des idées, et puis ben, voilà, ça va devenir quelque chose d'autre dans l'écriture aussi.
Mais il y a pas mal d'exemples de couples qui écrivent en science-fiction, et je pense qu'il y aurait toute une thèse à faire sur Lewis Padgett, qui est le mélange de Catherine Moore et d'Henry Kuttner, sur Nathalie Charlenberg. Ça serait vraiment très intéressant, parce qu'à chaque fois, quand on lit un texte de l'un, un texte de l'autre, ils sont toujours moins bien que le texte des deux en même temps. Et c'est très marrant, on pourrait commencer par étudier la façon d'écrire de Colette et Willy. Enfin, ouais, là, il y a vraiment un travail à faire.
Il y avait Yves et Ada Rémy aussi. Mais pour Enberg, il me semble que...
Pour Enberg, c'est... En fait, c'est
on a pas mal trouvé que c'était Enberg qui écrivait. C'était Nathalie qui écrivait.
Je crois. Oui.
Oui,
oui, voilà. autre question, je crois. Monsieur, oui.
Bonjour. C'était plus une demande. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du test de Bechdel? Parce que je trouve que c'est une grille de lecture intéressante quand on regarde une œuvre, pour voir comment se place le genrage dedans. Sinon, je peux vous le redonner, si vous voulez.
Le test de
Bechdel. Alors, c'est un test qui sert dans les œuvres à vérifier si une œuvre est très, très genrée ou pas. Ça marche en trois questions. La première, c'est on se demande s'il y a deux femmes identifiables avec un nom dans l'œuvre. Ensuite, si elles parlent ensemble. Et en troisième question, si elles parlent d'autre chose que d'un homme.
Bah, si je peux me permettre, moi j'en avais fait un billet de blog parce que je n'étais pas d'accord avec ce test. Je l'ai trouvé très incomplet. J'avais pris l'exemple de Gravity, où ben, il ne passait pas le test de Bechdel parce qu'il y avait un personnage. Enfin, il y en a deux, mais l'autre meurt très vite. Donc, il n'y a qu'un personnage, donc il ne passe pas le test, alors que le film tient quand même sur une femme. Après, elle a un prénom, mais elle a un prénom d'homme, parce que son père voulait un petit garçon. Donc, c'est un personnage féminin, certes, mais qui s'excuse d'être une femme. Enfin, donc, ce test est bien, c'est une bonne base, mais je pense qu'il est très incomplet. J'en avais proposé un autre qui est tout aussi imparfait, sur mon blog, voilà.
C'est quoi le nom du test?
Bechdel. Ça vient d'une féministe américaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il est systématiquement donné à chaque film qui sort en Norvège, il me semble, pour avoir un petit... comme on donne moins de 18, moins de 16, etc., on fait un petit test comme ça pour évaluer le côté sexiste, misogyne ou pas d'un film en Norvège, en tout cas.
Je peux ajouter de l'eau à ton moulin, Florence, en disant que l'anamnèse de Lady Star, par exemple, dont l'héroïne est une femme, ne passe pas ce test parce que cette héroïne n'a pas de nom. C'est même le propos du livre.
Donc, oui, voilà. Donc c'est, oui, voilà,
c'est, une bon. C'est une enquête, de toute façon. Donc, voilà.
Ouais. Oui, il y a d'autres exemples, hein, innombrables. Hein. Voilà.
Merci. D'autres questions? On a le temps pour une oui. question encore.
Oui, à propos du test de Bechdel, j'ai lu un article il y a quelques mois. 95% des Disney, même les plus vieux, passent le test. Déjà.
Ah ouais.
Donc même on peut dire ce qu'on veut. Oui, 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 apparemment, oui. Parce qu'en moins, il y a deux filles, elles ne parlent pas d'un mec et elles ont un nom.
Non, mais voilà, il est.
Voilà. Enfin, c'était juste pour. J'avais une autre question, enfin, remarque. C'était fait exprès que quand vous êtes présenté, vous avez donné votre âge, votre statut marital et le nom d'enfant.
Parce non, que je ne l'ai pas faute, fait personnellement.
Moi non plus, je ne l'ai pas fait. Hein.
Non, parce que.
C'est ma faute.
Voilà, cette année, je ne suis pas beaucoup venu. C'est le premier jour où j'ai eu un Utopial cette année. Et même les années d'avant, quand c'était souvent des hommes sur la scène, c'est la première fois que ça marque des gens qui disent s'ils ont des enfants, etc. Je ne sais pas s'ils étaient faits exprès pour voir si on allait remarquer. Parce que le sujet de. Voilà, c'est Wonder Woman, etc. Donc voilà, je voulais voir votre avis sur la question.
Mais je me suis fait la réflexion que. Que vous toutes vous donniez le nom de vos enfants, le nom de vos
non
enfants.
Mais je crois que c'est une remarque aussi.
C'est moi qui voulais faire une blague, elle était
voilà. Oui, c'était à prendre au second degré. Désolé. En fait, hein, d'accord, voilà.
Oui. Cela étant, moi ce que je trouve inquiétant, c'est que les mecs le disent pas. 13h30. Pas du tout que je le dise. J'assume pleinement d'avoir fait des enfants, je les adore. Quand je me présente en tant qu'individu, je présente aussi ça. Le fait est que c'est aux hommes qu'on assigne la discrétion aussi dans leur présentation en temps. Ils sont pas montrés comme des gens de famille, mais c'est un manque pour eux. Ouais. C'est pas une faiblesse chez nous. Je suis désolée, c'est l'inverse.
Mais c'est la vieille distinction entre le public et le privé. Les hommes sont censés être dans la sphère du public et les femmes dans la sphère du privé. Donc les hommes n'ont pas à dire leur âge, dire s'ils ont des enfants, s'ils ont des chats et whatever. C'est du privé, ça. On n'en cause pas quand on est un homme. Ça
faisait juste... Je suis bien d'accord, Elisabeth, mais je ne trouve pas que c'est forcément c'est désolant, un bon truc.
C'est une vieille, vieille, vieille dichotomie qui est encore extrêmement là.
Pour ma défense, entre guillemets, quand je vous ai entendu, c'était peut-être une blague, mais tout le monde a suivi derrière. Et je me suis dit, justement, tiens, c'est marrant, les hommes ne se présentent jamais comme ça. Ce n'était pas dans ma question quand je l'ai dit, mais dans ma tête, c'était vraiment présent.
pourquoi les femmes sont plus obligées et les hommes justement obligés de cacher ce genre de choses. Voilà.
C'est bien remarqué, oui.
Voilà. Bien, je vois le temps, notre temps est imparti, donc je vais vous remercier d'avoir suivi donc cette belle table ronde. Et moi, je vais remercier vraiment toutes les intervenantes de cette table ronde. Et je vous souhaite bonne continuation donc aux Utopias. Merci.